Suivez le Salon des maires et des collectivités locales du 19 au 21 novembre 2024 depuis le stand du gouvernement en partenariat avec Radio Territoria.
Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons en direct pour ce deuxième jour du Salon de la biodiversité et du génie écologique, tout à côté du Salon des maires à la Porte de Versailles. Nous sommes au cœur du pavillon 3 sur le plateau de Radio Territoria pour enregistrer une série de 6 émissions réalisées en partenariat avec les ministères des Territoires, de l'Écologie et du Logement. Et pour cette deuxième émission de la matinée, nous allons la consacrer à la restauration de la nature. Pourquoi engager son territoire et comment s'y prendre ? Restaurer la nature, ce n'est pas revenir à un état de nature antérieur, car les écosystèmes et nos usages ont changé et continueront à changer. Il s'agit au contraire de rétablir le bon fonctionnement écologique des écosystèmes actuels. Cela peut passer par la réduction des pressions qui pèsent sur les écosystèmes, telles que les pollutions, ou par des opérations de génie écologique. Et c'est essentiel, car seuls des écosystèmes en bon état peuvent nous fournir les services écosystémiques dont nous avons besoin, comme produire de l'eau potable, lutter contre les inondations, contribuer à l'atténuation du changement climatique et rafraîchir nos villes, préserver notre santé, mais également notre bien-être et contribuer à l'attractivité d'un territoire. Et donc, pour nous en parler, nous avons le plaisir de recevoir 4 invités experts de la question. Et je commence avec Philippe Rogier. Vous êtes sous-directeur de la protection et de la restauration des écosystèmes terrestres à la direction de l'eau et de la biodiversité à la direction générale de l'aménagement du logement et de la nature pour le pôle ministériel des territoires, de l'écologie et du logement. Jérôme Dubost, vous êtes maire de Montivilliers en Seine-Maritime et vous êtes lauréat de l'édition 2024 du prix du génie écologique dans la catégorie Nature en ville pour le projet du parc jardin de la Sente des Rivières. Valentine Norève, vous êtes responsable du programme Nature porté par CDC Biodiversité et le Fonds Nature 2050. Et enfin, nous avons le plaisir d'accueillir Vincent Tran, qui est chef du service des interventions à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne sur le site du Mans. Et je précise aux auditeurs que vous pouvez bien sûr poser vos questions pendant l'émission. Nos invités du jour y répondront en seconde partie d'émission avec l'appui d'Hélène Parmentier, que je salue et qui est chargée de mission mobilisation des territoires à la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature. Nous allons commencer cette émission avec vous, Philippe Rogier, pour rappeler aux éditeurs ce qu'on entend par restauration de la nature. Qu'est-ce qui est en jeu ?
Bonjour, merci de votre question. Vous l'avez dit, restaurer, ce n'est pas revenir à un état antérieur, c'est vraiment contribuer au rétablissement ou au maintien du bon fonctionnement écologique des écosystèmes. Et pour ce faire, on a 2 voies possibles, selon l'état de dégradation du milieu. Réduire ou stopper les pressions, vous l'avez évoqué, les pollutions, la surexploitation des espèces, ou être actif en termes d'action, de rétablissement de l'état écologique. C'est ce qui se fait sur les milieux les plus dégradés. Donc, on connaît tous des opérations de recréation de méandres ou de berges naturelles d'un cours d'eau, de remise en état de zones humides ou de réouverture de milieux qui se sont enfrichés ou qui ont été envahis par des espèces envahissantes. Il y a également la réimplantation de haies en milieu agricole. Et en fait, cette restauration des milieux, c'est-à-dire le maintien en bon état des écosystèmes, est la seule solution pour nous permettre aux milieux de fournir les écosystèmes essentiels, comme l'eau, la purification de l'eau, de l'air, la production du bois, des aliments ou le rafraîchissement des villes. Donc, c'est d'autant plus important dans le contexte actuel avec le changement climatique, c'est-à-dire qu'il va falloir restaurer les milieux, mais en tenant compte des évolutions du climat et se projeter dans quelques décennies pour que le milieu qu'on aura restauré soit adapté au climat de l'époque. Et tout cela, donc, on le fait dans un cadre qui est international, les accords de Cagny-Montréal, européens, avec la stratégie biodiversité de l'Union européenne et le récent règlement européen sur la restauration de la nature. Et puis, au niveau national, puisque nous allons élaborer un plan national de restauration des écosystèmes à l'horizon 2026.
Il y a déjà une stratégie en France pour la biodiversité et un plan nature en ville. Quelle est l'implication de ce règlement européen pour restaurer donc la nature qui est paru au journal officiel de l'Union européenne le 29 juillet 2024 et qui est entré en vigueur le 18 août dernier dans toute l'Union européenne?
Eh bien, la stratégie nationale biodiversité comporte déjà une action relative au règlement européen. Mais en plus, il y a nombre d'actions que comporte la stratégie nationale biodiversité qui vont contribuer à la mise en œuvre de la restauration de la nature. Alors on peut citer une des actions qui est en elle-même très, très structurante, qui est la stratégie nationale pour les aires protégées. Et on peut également citer d'autres actions qui ont été menées. Je vais donner comme exemple le plan Nature en ville qui a été lancé le 30 septembre dernier, donc pour traiter ce qu'on appelle dans le règlement européen les écosystèmes urbains. Alors c'est un plan qui prend la suite d'un précédent, donc qui s'inscrit dans sa continuité, qui a pour objectif de garantir une diversité d'espèces dans les villes, d'adapter les villes au changement climatique et de contribuer à la santé et à la qualité du cadre de vie des citadins. Donc il comporte 26 actions qui ont pour objectif de faire de la nature une composante essentiel de l'imaginaire urbain, un élément constitutif de la durabilité, de l'identité, de l'attractivité d'un territoire urbain. Et il propose de nombreux outils pour accompagner les collectivités dans la conception et la réalisation de leurs projets de nature en ville, notamment au travers des filières de génie écologique. Voilà, et puis vous connaissez également les nombreuses actions de restauration qui sont d'ores et déjà menées en France. Il y en a qui sont par exemple, qui s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la directive cadre sur l'eau et bénéficient notamment des financements des agences de l'eau sur les milieux terrestres. Le Fonds vert, le programme Live Biodif France de l'Office français de la biodiversité contribuent également par leur financement à la réalisation de projets. Et cela ne peut se faire évidemment que par la mobilisation des élus et des gestionnaires des espaces naturels.
Philippe Rogier, on peut dire que la France a une longueur d'avance dans ce domaine.
Alors, c'est effectivement, on peut dire qu'on a anticipé, qu'on s'est mis en ordre de marche, notamment avec la stratégie nationale biodiversité qui a été adoptée il y a presque un an. Et nous sommes donc engagés dans l'élaboration du futur plan de restauration de la nature. Et c'est vrai qu'on pourra s'appuyer sur toutes les initiatives et toutes les actions qui ont été déjà réalisées dans les territoires. Cet après-midi, donc il y aura la remise des trophées des 9 lauréats du prix national du génie écologique. Oui, ben justement, j'invite les participants à y assister. Et en fait, ce seront des projets concrets de restauration de la nature qui seront récompensés et mis à l'honneur. À la fois lutte contre les inondations par des solutions fondées sur la nature, rafraîchissement des villes, lutte contre les espèces exotiques envahissantes, restauration de zones humides. Alors c'est un prix qui est organisé depuis 2014 et qui permet de valoriser des projets de génie écologique de qualité et de montrer que le génie écologique peut répondre à de nombreux enjeux opérationnels. Il contribue à travers les projets lauréats à partager les bonnes pratiques en faveur de la biodiversité et à favoriser également le développement de la filière du génie écologique qui est en émergence. Et donc, il récompense un travail collectif de l'ensemble des acteurs concernés par ces projets exemplaires, donc les maîtres d'ouvrage évidemment, mais aussi les bureaux d'études, les maîtres d'œuvre, les entreprises de travaux, les fournisseurs, les organismes de recherche, les associations. Et c'est un ce prix, mais il y a beaucoup d'autres initiatives. On peut également citer l'appel à projet solutions fondées sur la nature pour adapter le littoral, qui est également lancé par la direction de l'eau et de la biodiversité, et puis les 70 projets de solutions fondées sur la nature du plan eau.
Merci Philippe Roger. Donc, nous avons la chance d'avoir sur le plateau un lauréat de ce prix du génie écologique. Avec vous, Jérôme Dubost, vous êtes maire de Montivilliers en Seine-Maritime. Et donc lauréat de l'édition 2024 de ce prix dans la catégorie Nature en ville pour le projet du parc jardin de la Sande des Rivières. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce travail qui a été fait, de ce projet ?
Oui, bonjour. Écoutez, merci déjà. C'est un plaisir en tant que maire d'une ville de 16 000 habitants que d'être ici au Salon des maires pour parler d'un projet concret. Donc Montivilliers est une ville située juste à côté du Havre, vraiment à quelques kilomètres du Havre. C'est une ville avec un patrimoine historique, un patrimoine naturel. Et l'objectif principal du parc de la Sande des Rivières, c'est évidemment de pouvoir renaturer, restaurer une zone humide. On sait que les zones humides, elles favorisent la biodiversité, elles sont essentielles. À l'échelle mondiale, on sait qu'elles sont menacées. Localement, nous avons pu retravailler sur ce projet. On se situe sur une zone de 3 hectares, située en cœur de ville, à 5 minutes à pied de mon bureau, hein, de l'hôtel de ville, vraiment en cœur de ville, à côté d'une abbaye fondée au 7e siècle. Et bordé par une rivière de 14 km, elle parcourt 7 km sur le territoire de ma ville. Et c'est un 18e, 19e siècle, c'est une rivière qui connaissait des moulins, aujourd'hui qui n'existe plus, et c'était la promenade dominicale, c'est le paradis pour les joggeurs, et la balade dominicale en famille. Et puis, au fil des années, des terrains se sont installés, des terrains avec le nom droit. Très clairement, c'était des terrains, des jardins, qui sont transformés en terrain de loisirs, puis après ça a été du squat et c'était devenu ingérable. Et donc sur une zone pour laquelle personne ne pouvait aller, parce qu'il y avait des roselières, et c'était vraiment une zone qui devenait vraiment pénible, j'ai envie de dire, d'un point de vue de délinquance. Eh bien, le projet est né en 2018 avec l'acquisition de 2,5 hectares de foncier, donc qui appartient à cette zone appartient à la ville, et puis d'un projet de longue haleine, donc un projet en 3 ans qui vient d'être inauguré. Donc il a fallu dans un premier temps déblayer, c'est-à-dire 600 tonnes de déchets dans une zone humide qui se situe dans une zone PPRI, donc une zone rouge en plus, la zone rouge du PPRI, donc on ne peut pas faire évidemment tout ce que l'on veut, administrativement c'est extrêmement complexe. Néanmoins, nous avons pu faire ce travail avec les administrations, évidemment les services de l'État, mais avec des partenaires, la région Normandie, le département de la Seine-Maritime, et puis l'Europe qui nous a accompagnés pour un financement très important du FEDER. C'est la volonté, c'est de pouvoir concilier la nature et l'être humain. Il y a des zones où on interdit à l'être humain d'y venir. Nous avons fait le choix de pouvoir concilier la présence de l'être humain, de faire en sorte que ce soit une zone inclusive. Je suis éducateur de formation, j'ai souhaité que tous les handicaps puissent accéder, toutes les personnes soient sur un handicap puissent accéder à cet espace qui aujourd'hui connaît un succès massif. Alors nous avons souhaité évidemment préserver la nature avec des pontons, donc des pontons situés à 1 mètre d'eau, ce qui permet, lorsqu'il y a des inondations, parce que ma commune est touchée malheureusement par des inondations, elle a été l'année dernière, nous n'avons pas eu d'inondation depuis 20 ans, l'année dernière nous avons connu des inondations, 50 maisons ont été inondées dans ma commune, et bien cette zone elle sert de tampon, elle permet évidemment de capter les eaux, et c'est vraiment utile, là, ce qui est capté dans ce parc jardin, c'est ce qui ne va pas dans les maisons, très clairement, et donc un vrai enjeu écologique, c'est de pouvoir redonner un aspect naturel, enfin l'accès à la nature, aux habitants, et aujourd'hui, ce qui était fréquenté hier, l'est davantage aujourd'hui, avec un plaisir, c'est la balade, le matin quand il n'y a personne, le soir quand il n'y a personne, eh bien, c'est la sérénité qu'on le retrouve dans cette zone humide.
Alors, c'est un projet exemplaire. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés ou des obstacles dans la mise en place de ce parc ?
Alors, évidemment, lorsqu'on se situe dans une zone PPRI, il y a évidemment des normes à respecter. Donc, il a fallu travailler de concert avec les services de l'État. Nous n'avons pas pu faire ce que nous voulions. L'autre difficulté, c'est comme il y avait du squat, il a fallu pouvoir inviter gentiment et parfois de manière un peu plus coercitive les squatteurs, si je puis dire. Mais ça s'est fait avec un travail de longue haleine et nous l'avons on a fait du sur-mesure. Et les personnes, les vrais jardiniers qui étaient là, nous sommes engagés, le temps des travaux, à leur retrouver un point de chute et leur dire, vous seriez les principaux à revenir ici, vous reviendriez en priorité, puisque dans ce parc-jardin, nous avons 14 parcelles de jardins, dont un jardin participatif, et sous forme de régie, puisqu'on a fait le choix, c'est la ville qui a fait le choix de les gérer. Évidemment, ces obstacles avec les habitants, on peut en discuter. On a une démarche participative très constructive, c'est-à-dire réunion publique, on a fait du porte-à-porte. Nous avons fait des ateliers citoyens autour des panneaux pédagogiques, autour de l'usage des jardins, autour de la présence des enfants, des familles, des personnes en situation de handicap. Et puis, juste une anecdote pour les jardins. Avoir un jardin, c'est bien, mais il faut un local, un petit local pour stocker. Évidemment, on n'a pas le droit, en zone pépérie, de construire en dur. Donc, nous avons fait le choix d'un local technique à Jouret, évidemment surélevé, ce qui nous a permis de biaiser, mais en tout cas d'être respectueux du droit, et ce qui nous a permis évidemment d'avancer. Moi, je retiens de la réussite, c'est aussi le travail que nous avons fait avec une maîtrise d'œuvre. Les services de la ville étaient mobilisés avec un maître d'œuvre qui vraiment a fait un travail de concert en ayant entendu les difficultés du terrain, en ayant travaillé sur le principe hydraulique, en ayant pensé le paysage, vraiment en ayant eu ce travail à façon. Qui fait que c'est une réussite. Et nous avons associé, je tenais à le dire, la LPO, la Ligue protectrice des oiseaux. Nous avons travaillé avec l'OFB, nous avons travaillé avec l'Association des pêcheurs, parce que, évidemment, pendant un an et demi de travaux, presque le kilomètre de rivière n'était pas accessible aux pêcheurs. Et j'ai fait le choix vraiment de pousser pour que, à la réouverture de la pêche en mars dernier, le site soit accessible aux pêcheurs. Et donc, c'est un travail avec l'ensemble des usagers qui, aujourd'hui, nous permet vraiment de montrer qu'on est capable de concilier la présence de la nature en centre-ville d'une ville de 16 000 habitants.
Très bien, merci beaucoup Jérôme Dubost. On revient avec vous, Philippe Roger, justement pour savoir un peu comment le ministère soutient et favorise le développement du génie écologique. Est-ce qu'on peut mesurer ses impacts sur le climat et sur les écosystèmes ?
Je permets juste de féliciter M. le maire pour ce très beau projet. Je pense que le ministère y contribue aussi par ses services déconcentrés qui ont accompagné la commune, vous l'avez dit, monsieur le maire. Donc le ministère, avec ses partenaires depuis 10 ans, contribue à promouvoir le génie écologique. Et donc c'est un secteur qui se structure en France et dans le monde pour apporter des solutions collectives. Dès 2012, le génie écologique a été identifié comme une filière stratégique de l'économie verte. Ont émergé plusieurs associations professionnelles je peux citer l'Association fédérative des acteurs de l'ingénierie et du génie écologique et l'Union professionnelle du génie écologique. Ces associations, cette union œuvre avec le ministère à structurer la filière qui apporte des solutions concrètes et collectives. Donc cette dynamique a permis la création d'un centre de ressources, génie écologique, que pilote l'Office français de la biodiversité, la création et la mise à jour de l'annuaire des entreprises du génie écologique par AIGECO, l'organisation du prix national du génie écologique par cette même association, et puis de la normalisation des outils de qualification des entreprises et des ressources à leur disposition. Donc on est aujourd'hui à une phase stratégique qui est le changement d'échelle. Et notre ambition, c'est que les compétences et les outils de l'ingénierie et du génie écologique soient mobilisés autant que possible pour répondre à l'enjeu de résilience des territoires en 2030, mais aussi, je parlais tout à l'heure du règlement restauration de la nature, à l'élaboration du plan national de restauration et à sa mise en œuvre. On a de nombreux programmes de recherche, de développement de sites de démonstration, les retours d'expérience sur les solutions de la nature. Tout cela nous prouve scientifiquement que les actions d'aménagement du territoire mobilisant la nature ont un impact positif sur la biodiversité et les services qu'elle nous rend, que ce soit au travers de la prévention des risques, l'adaptation au changement climatique ou le bien-être humain. Voilà, ce sont des projets à long terme qui mobilisent le vivant. Et il est important de mettre en place un suivi et une évaluation de tous ces projets pour éventuellement les réadapter. Voilà. Et ce qui est important, je pense, à souligner Enfin, c'est que l'État ne peut pas agir seul. On vient de le voir sur les projets, le projet de la commune de Montivilliers. C'est la collaboration avec les collectivités qui est impérative pour répondre à ces grands enjeux. Et ce sont finalement les collectivités qui peuvent agir localement en tant que maître d'ouvrage et ainsi démultiplier ces solutions sur leur territoire. Et donc, en faisant appel au génie écologique, on contribue au développement écologique des territoires en mobilisant de nombreux acteurs, les bureaux d'études, les entreprises, les pépiniéristes, pour n'en citer que quelques-uns. Merci.
Voilà, Valentine Norev, je me tourne vers vous. Vous êtes responsable du programme Nature 2050 proposé par CDC Biodiversité. Pour quelles raisons ce programme a été créé, Valentine ?
Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup pour l'invitation. Le programme Nature 2050, c'est un programme de philanthropie qui a été créé par CDC Biodiversité en 2016. Et en 2019, on a créé un fonds de dotation qui s'appelle le Fonds Nature 2050 pour permettre à plus d'acteurs privés de nous soutenir. En 2016, on est parti d'un constat, c'est que même si on arrive à respecter l'accord de Paris et même si on reste sous 1,5 degré de réchauffement climatique, ce qui est hautement probable aujourd'hui, il y aura un impact du changement climatique sur les territoires. Et du coup, comment est-ce qu'on aide les territoires à s'adapter au changement climatique et comment est-ce qu'on mobilise les acteurs économiques à aller au-delà de leurs obligations réglementaires ? On est vraiment un programme de mécénat, donc on peut faire les actions qu'on fait grâce à l'engagement de nos partenaires qui vont donner au programme Nature 2050. On est sur la totalité de la France métropolitaine et Outre-mer. Et à ce jour, on soutient donc à fin 2023, puisqu'on travaille par année, on est en train de finaliser le train de projet 2024. À ce jour, on a 82 projets en donc France métropolitaine et Outre-mer, comme je vous le disais, ce qui correspond à 488 hectares de surface directement impactée et un peu plus de 8000 hectares de surface où il y aura un impact de manière générale.
Quelle est un peu l'ambition de ce projet ? Ils sont répartis dans différentes catégories, ces projets, enfin, voilà, pour mesurer un petit peu le champ d'action de ce plan d'action.
Oui, c'est ça. Alors, on a 5 catégories, 5 cibles d'action pour nos projets, les écosystèmes marins et côtiers, les transitions agricoles et forestières, la biodiversité en ville, les continuités écologiques et les zones humides. Ce qui est aussi intéressant et que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est qu'on s'appelle Nature 2050, c'est-à-dire qu'on va conventionner avec nos porteurs de projets jusqu'en 2050, c'est-à-dire qu'on s'assure que les aménagements qu'on va financer vont rester en place jusqu'en 2050 et on met en place une vraie démarche de suivi-évaluation des projets jusqu'en 2050 pour faire la preuve de l'intérêt des solutions fondées sur la nature par rapport aux solutions grises.
Vous avez quelques exemples de projets que vous avez soutenus qui sont un peu emblématiques de ce programme d'action ?
Oui, tout à fait. Alors, j'avais pensé à 3 projets à vous présenter rapidement. Le premier, c'est Collège Vert pour mon quartier, qu'on a intégré en 2021, qui est porté par Paysans Urbains sur la ville de Marseille. Et l'idée est de créer un parc sur les surfaces des collèges pour que les populations puissent en profiter. Donc, on est vraiment sur la biodiversité en ville. Le second dont je voulais vous parler, c'est Piège à sédiments dans la baie de Morari. Là, on est en Nouvelle-Calédonie. C'est porté par Conservation International. Et l'idée est de faire des pièges à sédiments pour recréer la mangrove. Et enfin, le troisième, c'est la ferme de la Vieille Écluse. Là, on est en Île-de-France. C'est sur les terrains d'un ancien centre équestre. Et là, c'est de restaurer des prairies humides. C'est porté par le Seine-Île-de-France.
Vous vous fixez quels objectifs, combien de programmes d'action, enfin voilà, quelle est un peu votre ambition sur ce plan d'action ?
Donc on est jusqu'en 2050. Donc déjà le premier objectif, c'est d'avoir des projets avec du foncier suffisamment sécurisé pour qu'on puisse être sûr qu'ils seront encore là en 2050. Et après autant de projets que possible et qui nous sont permis donc par nos contributeurs qui vont contribuer de manière philanthropique au programme Nature 2050.
Alors, nous allons poursuivre cette émission avec Vincent Trane. Nous allons parler un petit peu des agences de l'eau. Comment les agences de l'eau peuvent-elles accompagner les territoires pour mettre en œuvre les projets de restauration de la nature ?
Bonjour à tous, merci également pour avoir invité les agences de l'eau à cette émission. Alors, en effet, cet enjeu de restauration de la nature, il est vraiment au cœur de l'action des agences de l'eau qui vont mettre en œuvre dès le 1er janvier prochain leur prochain programme d'intervention sur la période 2025-2030. Comme ça a déjà été mentionné, l'objectif c'est vraiment de s'appuyer en priorité sur les solutions fondées sur la nature pour aller chercher au maximum la résilience des milieux et leur résilience face aux effets du changement climatique. Donc à ce titre, les agences de l'eau vont accompagner à la fois techniquement mais également financièrement un certain nombre de projets. On peut penser par exemple aux projets qui ont déjà été mentionnés de restauration de cours d'eau via des reméandrages, via un travail sur la restauration de la continuité à la fois écologique et sédimentaire des cours d'eau. Mais également des projets très importants, et ça a été mentionné dans le projet lauréat de restauration de zones humides, de restauration de zones d'expansion de crues, absolument fondamentales, y compris pour, via ces solutions fondées sur la nature, lutter contre les risques d'inondation. Et puis, pour faire le lien avec ce qui a été indiqué sur le programme Nature en Ville, également, les agences de l'eau accompagnent les opérations de désimperméabilisation et de renaturation au sein des milieux urbains. L'objectif pour les agences de l'eau, d'un point de vue quantitatif, sur l'ensemble de ces solutions fondées sur la nature, ça va être globalement de ralentir le cycle de l'eau, de ralentir le temps de transfert de l'amont vers l'aval, et ainsi au maximum de redonner aux écosystèmes un fonctionnement hydrologique naturel et plus résilient, ce qui est particulièrement fondamental en période d'étiage marqué comme on a pu connaître par exemple en 2022. D'un point de vue qualitatif, c'est également fondamental puisque ces projets vont permettre à la fois de renforcer la capacité d'auto-épuration des milieux, concrètement de renforcer leur capacité à lutter naturellement face aux pollutions, en faisant ça, à redonner une place beaucoup plus importante à la biodiversité en travaillant sur la diversification des habitats, la lutte contre des effets de réchauffement qui peuvent être produits par des obstacles à la continuité, par exemple.
Est-ce que vous avez des projets concrets à nous présenter? Quelles sont ces structures qui présentent ces projets et quelles aides, pour qu'on comprenne bien, peuvent obtenir ces structures?
Oui, absolument. Alors, si on va par exemple sur les projets de restauration des cours d'eau, de manière générale, ce vont être les collectivités qui disposent de la compétence en matière de gestion de l'eau et des milieux aquatiques qui vont porter ces projets. Donc les collectivités, les intercollectivités elles-mêmes, les intercommunalités pardon, elles-mêmes, ou bien les syndicats de bassin à qui elles auront délégué cette compétence. Je peux par exemple prendre l'exemple d'un précédent lauréat du prix du génie écologique, le travail mené par le syndicat mixte des Basses-Vallées Angevines et de la Rhône, donc près d'Angers, sur la restauration du ruisseau de Marsay et des zones humides attenantes. Donc là, on est vraiment sur une restauration de 2 km de cours d'eau qui avait été fortement abîmé par à la fois un curage, une rectification et puis des travaux d'aménagement routier. Et donc ce travail-là a permis vraiment de restaurer ces milieux-là et donc de redonner cette biodiversité. Et maintenant, on est 2 ans après l'achèvement de ces travaux et on peut mesurer vraiment l'impact à la fois, comme je le disais, d'un point de vue quantitatif sur la recharge des nappes, mais aussi d'un point de vue qualitatif sur l'augmentation vraiment importante du nombre d'espèces qu'on peut y retrouver. Sur la partie préservation de la biodiversité, des zones humides, on peut citer par exemple le projet, si on se déplace cette fois en Bretagne, dans le Morbihan, un projet sur la biodiversité littorale, puisque les agences de l'eau interviennent sur cette biodiversité marine et littorale. Et donc là, je voudrais vous parler du projet sur la commune de la Trinité-sur-Mer, du marais rétro-littoral de Kerdual. Donc un marais rétro-littoral, c'est vraiment un milieu très très particulier où vont se mélanger à la fois l'eau de mer et l'eau douce. C'est un marais qui pendant longtemps a connu une activité liée au paludier qui a progressivement cessé et puis ce milieu s'est fermé du fait de plantes exotiques envahissantes et puis aussi du fait d'un envasement lié à l'extraction de vase d'un port voisin. Et bien là, depuis maintenant près de 10 ans avec le Conservatoire du Littoral, l'objectif, ça a été de progressivement réouvrir les liaisons entre ces milieux marins et ces milieux continentaux afin de recréer des milieux, un écosystème plus résilient et plus favorable, par exemple à la nurserie sur les anguilles, à la nidification des oiseaux. Et puis ça constitue finalement une zone sur ce littoral qui est finalement assez minérale, une zone de poumon vert vraiment important. Et puis un outil écologique d'auto-épuration absolument fondamental. Et puis si on va sur les questions de désimperméabilisation plutôt en milieu urbain, là, ça va être principalement les collectivités qui ont la compétence en matière de gestion des eaux pluviales qui vont porter ces projets. Et donc voilà, on peut citer, mais parmi de très nombreux projets sur l'ensemble du territoire, les projets portés par exemple par la ville du Mans sur les cours de ces écoles, qui font vraiment un travail remarquable pour allier à la fois les questions d'infiltration des eaux pluviales qui sont fondamentales, mais également de végétalisation, de création d'îlots de fraîcheur en ville. Donc là, on va vraiment essayer de mêler, de croiser des thématiques très différentes pour créer des milieux très très favorables à la biodiversité en milieu urbain.
À vous écouter, une des conditions de réussite de ces projets, c'est l'importance de l'implication des élus et tout ce travail de concertation que vous menez en amont du projet, j'imagine.
Oui, alors absolument, vous avez tout à fait raison, et je pense que l'exemple qui nous a été présenté sur le projet Lauréat cette année en est un formidable exemple. Ce qu'on constate vraiment, c'est que cette concertation en amont des projets, elle est vraiment fondamentale, parce que lorsqu'on va venir faire des travaux de restauration de la nature, parfois on va venir modifier un paysage qui peut être présent et donc ancré dans les habitudes d'un certain nombre de catégories, soit d'habitants, soit d'usagers, depuis un certain nombre d'années. Et donc cette concertation préalable, cette implication de l'ensemble des propriétaires, évidemment des terrains, mais également de l'ensemble des habitants, des usagers, elle est fondamentale pour que l'acceptation du projet puisse se faire, que le projet puisse se dérouler dans les meilleures conditions, et surtout pour qu'il soit vraiment approprié par les habitants. Et encore une fois, l'exemple qui a été présenté est tout à fait pertinent sur ce point. C'est-à-dire que un projet de restauration de la nature pour lui-même, il peut avoir son intérêt, mais s'il n'est pas approprié par l'ensemble des gens qui vont ensuite au quotidien côtoyer ces milieux, ça ne pourra pas être pérenne. Et puis je reviens juste en deux mots sur votre question précédente par rapport à l'accompagnement concret que peuvent apporter les agences de l'eau aux collectivités. Donc là, alors les modalités d'accompagnement financière vont dépendre de chaque agence de l'eau en fonction des priorités et des orientations qui auront été données par les comités de bassin. Et là, donc, il y a une phase de communication actuellement en cours sur justement le nouveau programme d'intervention des agences de l'eau qui se met en place à partir de 2025. Juste pour vous donner un ordre d'idée, à titre d'exemple sur le bassin Loire-Bretagne, par exemple, les travaux de restauration sur cours d'eau vont classiquement être accompagnés à hauteur de 50% par l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Sur la restauration de zones humides, on va être plutôt sur des taux allant jusqu'à 70%. Et bien souvent, on n'intervient pas seul, mais bien en partenariat avec d'autres financeurs, comme peuvent l'être les collectivités régionales ou départementales, ce qui permet vraiment d'avoir un accompagnement conséquent des collectivités pour permettre au projet d'être le plus ambitieux possible.
Merci Vincent Trane, merci à vous tous pour ces échanges qui ont permis un petit peu de nous éclairer donc sur cet aspect de restauration de la nature. Et maintenant, place aux questions des auditeurs. Hélène, est-ce qu'on a reçu des questions d'auditeurs ?
Oui Jean, nous avons plusieurs questions. Alors je vous propose de partager la première qui concerne plutôt les outils qui sont à disposition des collectivités pour s'engager et développer des solutions fondées sur la nature. Alors, il y a un certain nombre de dispositifs qui ont été partagés par nos invités, mais est-ce que vous avez en tête d'autres projets, comme le projet Artisan, peut-être ? Je ne sais pas si Philippe peut répondre.
Je pense qu'un bon outil... Enfin, là où trouver des outils, quand on crée un centre de ressources, ce qui est le cas à l'Office français de la biodiversité sur le génie écologique, c'est à disposition justement des porteurs de projets pour trouver les questions et les réponses aux questions qui se posent, pardon, et les outils qui sont nécessaires à leur mise en œuvre. Donc le projet Artisan, donc, développé par l'Office français de la biodiversité, contribue également à apporter identifier des solutions et à enrichir finalement le centre de ressources et les outils qui sont mis à disposition des porteurs de projets.
Nous avons mis tous les liens hein, sur ce centre de ressources et les autres ressources utiles sur le chat de l'émission. Une autre question autour de comment on trouve concrètement une entreprise de génie écologique. Peut-être que monsieur le maire peut partager aussi hein, son expérience sur est-ce qu'il a fait appel à des entreprises dédiées au génie écologique.
Nous avons défini un cahier des charges, évidemment un appel national, évidemment mise en concurrence, et nous avons eu un maître d'œuvre avec lequel nous avons travaillé. Et la volonté que nous avons eue, c'est de pouvoir à l'image de ce qu'est ce parc, c'est-à-dire des plantes indigènes. Nous avons voulu garder tout ce qui était naturel et enlever tout ce qui était inconfortable, du barbelé, des bâches, des grillages, 600 tonnes de déchets, hein, je rappelle. Et donc après, c'était pouvoir investir avec des pontons, donc 500 mètres de pontons utiles, du bois indigène. Donc ce sont des entreprises nationales. Le parc contient une aire de jeu, notamment une aire de jeu inclusive, avec des jeux que vous trouverez nulle part ailleurs, parce qu'en fait, ils ont été dessinés, et y compris le métal a été fabriqué, fondé en France, parce que c'était une volonté aussi de l'équipe municipale d'avoir des entreprises régionales, mais nationales, lorsqu'il s'agissait d'avoir notamment ces 500 mètres de pontons. J'insiste, et puis nous avons planté 1145 arbres plantés, 540 mètres de haies bocagères utiles dans le Pays de Caux, donc en Normandie, c'est important. C'est conséquent, très conséquent, et nous avons conservé toutes les espèces indigènes qui étaient présentes sur le territoire. Donc évidemment, on a fait appel aux artisans, aux entreprises du coin, majoritairement évidemment, tout en respectant le cahier des charges de la commande publique. Toujours simple.
Et Philippe, donc, est-ce qu'il existe un référentiel des entreprises sur le génie écologique ?
Oui, je l'ai indiqué, il y a l'association fédérative des acteurs de l'ingénierie du génie écologique qui a créé et met à jour régulièrement l'annuaire des entreprises du génie écologique.
Le lien sur le chat. Peut-être une dernière question qui concerne plutôt le règlement de restauration de la nature qui a été présenté en début d'émission. Quelles sont les conséquences pour les élus et comment les collectivités vont être accompagnées financièrement et en termes d'outillage ?
C'est une vaste question qui nécessiterait presque un radio territorial à elle toute seule.
On va prendre rendez-vous. Alors.
Voilà, c'est ça. Ce qu'on peut dire, c'est que le règlement prévoit un certain nombre d'étapes. Donc déjà souligner la progressivité de la mise en place des différents plans de restauration de la nature. Donc ça, c'est un premier point. Nous sommes justement dans une phase d'information, de partage de ce qui est prévu par le règlement européen et de ce qu'il faudra faire au niveau national dans le cadre du plan national de restauration. Il est prévu, nous avons déjà rencontré des associations d'élus, des acteurs socio-économiques, enfin les représentants des acteurs socio-économiques, agriculteurs notamment, qui sont très concernés par le sujet. Donc ce plan, de toute façon, il va faire l'objet d'une concertation préalable avec le public sous l'égide de la Commission nationale du débat public. Ça permettra donc de partager les informations et d'identifier les différents sujets. Sur les questions de financement, évidemment, c'est un sujet qui est important. Qui est même crucial. Le règlement européen prévoit que justement il y ait un chiffrage qui soit fait. Ça permettra aussi de dimensionner nos ambitions en tenant compte des moyens. Et il y a des travaux également qui sont menés au niveau européen sur ces questions de financement.
Très bien, écoutez, merci beaucoup Hélène pour ces questions. C'est la fin de cette émission enregistrée en direct du Salon de la biodiversité et du génie écologique. Vous pouvez retrouver cette émission, le podcast de cette émission sur le site et l'application de Radio Territoria. Et avec Hélène, on se retrouve à 14h pour une émission consacrée à la biodiversité et au tourisme durable. Merci à tous, à tout à l'heure.
Salon des maires et des collectivités locales du 19 au 21 novembre 2024 depuis le stand du gouvernement en partenariat avec Radio Territoria.